Vous écoutez RTL. RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Vincent Parisot sur RTL.
Et on refait le monde ce soir en compagnie de la journaliste Aude Rossigneux. Bonsoir Aude.
Bonsoir.
Avec l'ancien patron de Système U désormais, ben voilà, polémiste ici même, Serge Papin, bonsoir.
Bonsoir.
Avec le président du... Alors moi je dis pas think tank, je dis groupe de réflexion.
Allez,
ça va aussi, Sinopia. Alexandre Malafaille.
Bonsoir Vincent.
Et lui aussi, c'est un vrai groupe de réflexion à lui tout seul. C'est le chroniqueur économique d'RTL, Christian Menanteau. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Et on accueille également, comme chaque soir, Benoît Galeret pour les réseaux sociaux. Tout va bien de votre côté ?
Bonsoir, tout va bien, vous allez voir ça.
Alors, on va commencer justement par un sujet qui a dû enflammer les réseaux sociaux, j'imagine. C'est le fait que l'ONU nous tire l'oreille sur la manière dont le gouvernement gère la question des gilets jaunes. Les Nations Unies réclament à la France une enquête sur l'usage exclusif de la force. C'est donc la... Michel Bachelet, hein, qui a prononcé un discours assez sévère hein, sur la manière dont les forces de l'ordre se sont conduites jusqu'à présent depuis le début de ces gilets jaunes. Ce qui a valu d'ailleurs à Benjamin Griveaux tout à l'heure une réaction d'étonnement de constater que la France se retrouve dans une liste entre le Venezuela et Haïti sur la manière de faire régner l'ordre et de gérer la contestation dans les rues. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Tiens, qu'est-ce que ça vous inspire sur les réseaux sociaux, tout d'abord, Benoît Galeret ?
Eh bien, écoutez, vous en parliez, c'est vrai que notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est mêlé aussi hein, sur Twitter d'être entre Haïti et le Venezuela de Maduro. Est-ce bien raisonnable, demande-t-il, et de rappeler que les Français s'expriment chaque jour dans le grand débat et que les suspicions de violences policières font l'objet d'enquêtes. Mais vous avez commis la pire répression en France depuis la guerre d'Algérie. Assumez les conséquences maintenant, lui répond Clément. Nadia voit déjà Macron et toute la clique devant répondre de leurs actes devant une cour pénale internationale. Jacques, au contraire, soupire que seul le Conseil de sécurité peut parler au nom de l'ONU, pas une subalterne. Même son de cloche chez Jean-Michel Apathy, qui raille une sous-secrétaire désœuvrée qui s'est exprimée un jour où elle s'ennuyait. Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, haut-commissaire de l'ONU aux droits humains. Durant sa jeunesse, elle a résisté au régime de Pinochet. Elle a été arrêtée, torturée. Je crois qu'en termes de légitimité politique, elle n'a pas vraiment de leçon à recevoir, rétorque la Elia. Et Amnesty, l'ONG, de souligner que sur les violences contre les gilets jaunes, la France a déjà été interpellée par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen. Que faut-il de plus pour que le gouvernement réagisse enfin sur le sujet ? Un du pape, suggère Franck. Castaner va pouvoir répondre officiellement à l'ONU qu'un tir de flashball en pleine face, c'est pas une bavure, mais une erreur d'appréciation. On va bien rire, moque Raymond. Jasmine rappelle, elle, que l'ONU n'a aucun pouvoir. L'ONU laisse même des génocides se perpétrer, mais ça fait mauvais effet, c'est vrai, sur l'image de la France, pays des droits de l'homme. Eh bien, vous avez gagné. Laissons tout faire sans police ni gendarmerie pendant un mois s'ils sont si méchants. On verra bien ce qui se passe en rage-file pour finir.
Voilà ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors, on va quand même être, j'allais dire, précis. Si elle n'a pas mis la France dans, vraiment dans le même sac, elle a cité ces pays, Haïti ou aussi le Soudan, le Zimbabwe, et elle a dit qu'il y a également des États prospères, notamment la France, hein, où les gens se sentent exclus, et ensuite reprochant à la France sa manière de le gérer. Alexandre Malafaille.
J'ai envie de dire à Mme Bachelet qu'à un moment donné, il faut faire le bon choix de la bonne intervention. Je ne suis pas sûr que ce soit très opportun et je ne pense pas que ça va nous aider à court terme à régler cette crise, d'une part. Deuxièmement, j'ai un peu lu ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'on parle d'usage excessif de la force. Ce qui serait bien, c'est que là encore, on mette toujours en perspective ce qui se passe d'un côté et de l'autre. Parce que c'est très facile de ne retenir que les violences policières, mais il y a une réponse à une problématique. Et je pense qu'on aimerait bien de temps en temps donner la parole à tous ceux qui ont été victimes aussi des gilets jaunes, des débordements, des exactions, qui ont perdu un commerce, qui ont perdu pas mal de choses, si je puis dire, dans la bataille. Ça, c'est un premier point. Et après, elle parle des exclusions, des droits économiques et de leur non-participation aux affaires publiques. C'est-à-dire, elle devrait regarder ailleurs, hein. Parce que s'il y a quand même un pays qui est un état de droit, c'est bien la France. Et on voit bien à quel point l'application de l'état de droit est quand même un sujet chez nous, parce qu'on on l'applique tellement bien, qu'on en parlera peut-être tout à l'heure si on parle de ce qui se passe dans les prisons, on l'applique tellement bien qu'on laisse rentrer des gens armés dans nos prisons, tellement on est permissif. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut raison garder et que Mme Bachelet devrait faire attention à ce qu'elle fait. Je trouve que tout ça entache encore un peu plus les grandes organisations internationales.
Vous êtes d'accord, Audrey Rossignol, c'est injuste.
Je suis pas d'accord parce que je pense que c'est pas en cachant la poussière sous le tapis qu'on va faire comme si tout était propre et que il y a manifestement un problème. C'est pas, Bachelet qui est ancienne présidente du Chili, qui s'y connaît quand même pas mal en répression. Il y a eu aussi un groupe d'experts de l'ONU qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Le Conseil de l'Europe. Enfin, ce sont pas des zadistes, droits de l'homistes, punk à chien qui en ce moment sont en train de dire oh là là, enfin, c'est très très grave.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, vous savez de quoi et de qui il est composé quand même.
Non mais attendez,
vous avez la liste.
Non mais enfin,
c'est des pays qui sont dedans et qui nous donnent des leçons en matière de droits de l'homme.
Non,
la Chine, le Pakistan, l'Arabie Saoudite.
Et alors, c'est parce que on va pas faire un nivellement par le bas. Et alors?
Mais ils sont fondés à nous donner des leçons ou à encourager qu'on nous donne des leçons.
Je pense simplement que la France n'est manifestement pas fondée à en donner.
Ah bon?
Et c'est aussi le problème. Peut-être que Benjamin Griveaux est très étonné.
Demandez à M. Ghosn ce qu'il pense des droits de l'homme en Japon.
Non mais attendez, pour le coup, on parle de la France. Et en plus, c'est pas les droits de l'homme au Japon, c'est la question pénitentiaire au Japon. On peut parler de l'état des prisons en France. Après, on pourra peut-être en parler. Pardon, juste pour aller au bout de l'histoire. Il y a des violences. Oui, bien sûr, il y a des violences, y compris du côté des gilets jaunes, y compris il y a eu des exactions, etc. Non mais faites pas l'andouille. La question, c'est évident. Oui, bien sûr. Simplement, aujourd'hui, il y a une catégorie qui doit être irréprochable. Précisément, c'est l'État et c'est la police. Or, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Il y a des violences et il y en a énormément. Vous n'y êtes pas allé au manif. Moi, j'y suis allé. J'ai vu comment ça se passait.
Vous en savez des choses.
Mais Alexandre, je sais pas si je vole au secours de Audrey Rossignol, mais c'est vrai qu'il y a une question, par exemple, sur l'usage de ce qu'on appelle les LBD, qu'on appelait avant les flashballs, Christian Menanteau.
On peut légitimement, et quiconque peut remettre en question les méthodologies françaises de maintien de l'ordre. Elles ont d'ailleurs évolué tout au long de cette fameuse crise dite des Gilets jaunes. On a démarré par ce qu'on appelait les méthodes de maintien de l'ordre dites traditionnelles en France, dans notre pays, contrôlées par la préfecture de police pour la région parisienne, par exemple, et avec le résultat terrible qu'on a connu à mi-décembre, avec le saccage de l'Arc de Triomphe, avec des scènes de pillage, de violence. Je passe sur le comportement de certains au sein même des Gilets jaunes, qui étaient à la fois racistes, homophobes, antisémites, etc., etc. Mais donc, on peut se poser une question sur l'évolution qu'on peut, dans un pays comme le nôtre, attendre du maintien des pratiques du maintien de l'ordre. Mais comme je viens de l'entendre tout à l'heure de certains des internautes qui disent « Depuis la guerre d'Algérie, on n'a jamais fait pire », j'ai dit « Attendez, quand est-ce qu'il est né, l'internaute
qui a raconté ?» Il a oublié Malik Oussekine, c'est ça ?
Non, pas du tout. Non, Malik Oussekine, c'était une... Oui, c'est vrai qu'il a été coincé dans un coin, tabassé par ce qu'on appelait à l'époque les trottinettes volantes.
Voilà.
Les gars étaient sur des motets.
Ouais. C'était 86.
Absolument. Mais c'est à la suite, d'ailleurs, de l'affaire Malik Oussekine, que les pratiques de maintien de l'ordre ont profondément évolué au sein de la police nationale, des compagnies de CRS et des gendarmeries. Mais donc il faut bien garder ça en tête jusqu'à ces dernières manifestations. Et l'usage, c'est vrai, l'usage de la force par les policiers et les gendarmes, mais en toute franchise, quand on a vu les policiers se faire tabasser par les mecs, je pense qu'il y avait à des moments de grande tension qui exigeaient des réponses. Alors après, vous ne pouvez pas faire de la manif, casser et de temps en temps ne pas prendre vous aussi des coups.
Vous savez ce qu'on va faire ? On va marquer une petite pause parce que l'heure l'exige, la pendule l'exige. Et puis ensuite, je voudrais donner la parole sur cette question à Serge Papin. Et puis, évoquer quand même avec vous ce que vous ressentez lorsque la France est comparée à certains de ces pays qui ne font pas vraiment rêver en matière de droits de l'homme. Allez, à tout de suite.
On refait le monde dans RTL Soir.
Vincent Parisot.
On refait le monde avec ce soir Christian Menanteau, Alexandre Malafaye, Audrey Rossignol et Serge Papin qui ne s'est pas encore exprimé sur cette question. Je tiens à dire que à l'instant, Édouard Philippe vient de réagir. On n'a pas attendu l'ONU pour faire la lumière sur ces faits de violence. Voilà ce que vient de déclarer le Premier ministre. Oui. Qu'en dites-vous, Serge Papin ?
D'abord, deux choses. Il y a d'abord un grand débat d'organiser en France qu'il faut... Moi, je ne crois pas qu'il y ait eu des choses comme ça d'organiser dans d'autres pays de cette façon-là. On verra ce qu'il en ressortira, mais c'est quand même pas rien. Cette espèce de nouveau leadership qu'essaie de reprendre le président Macron par le dialogue. Et c'est, bon, il faut saluer ça quand même.
Après, un exercice démocratique.
Exercice démocratique. Voilà, exactement. Unicommande. Donc il faut quand même le saluer, ça. Et d'ailleurs, je pense que les Gilets jaunes, dans leur ensemble, saluent ça. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que ce mouvement est noyauté en France par ce qu'on appelle les Black Blocs. Moi, j'ai vécu, en tant que voisin, c'était avant les Gilets jaunes, au mois de mai, quand on était boulevard de l'hôpital, boulevard, boulevard de l'hôpital. Mm-hmm. On a vu, c'était au mois de mai l'année dernière, je crois.
Bah, au moment, au moment du 1er mai.
C'est ça.
Là où il y en a certains qui se sont illustrés donc, avec les forces de l'ordre.
Donc il ne s'agissait pas des. Des oui, voilà.
Oui, je pense pas.
Mais ce qui est pas normal, ce qui est injuste, c'est que les Gilets jaunes, dans leur ensemble, payent pour des excès qui sont des gens qui, finalement, sont des casseurs. Mmh. Et alors. Après, sur l'utilisation du flash...
Des LBD, des flashballs.
C'est une arme. Tous les experts, y compris les experts qui étaient il y a quelque temps au service de l'État, que j'ai entendu là, disent c'est une arme. Donc, c'est une vraie question après. Hein. Il faut avoir la formation pour... Et on peut imaginer, vous vous rendez compte qu'il y a certains policiers... qui n'ont pas de congé depuis de nombreuses depuis de nombreux mois, où on fait rentrer aussi sans doute des jeunes, parce que voilà, et il faudra sans doute une formation très appropriée, mais c'est une arme. Et ce que je trouve qui est pas normal, ce qui noyaute aujourd'hui, ce sont ces casseurs, parce que les Gilets jaunes ont le droit, je pense, de s'exprimer, et ce mouvement. Malheureusement, et comme d'autres, hein, d'ailleurs, comme d'autres manifestations. Le problème, c'est qu'en France, malheureusement, maintenant, il ne peut plus y avoir de manifestations ou rarement, comment dirais-je, démocratiques et paisibles, parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent la casse. Mmh. Ça, ce n'est pas normal.
On recenserait une vingtaine de blessés graves hein, par tir de LBD, la plupart à l'œil, d'ailleurs.
Il y a 500 signalements faits par David Dufresne, qui est un journaliste qui fait un travail de recensement remarquable, et qui, avec des vidéos, des témoignages extrêmement précis, des photos, chaque semaine, recense les problèmes, dont effectivement le handicapé en fauteuil roulant qui se fait asperger de gaz lacrymo, dont des policiers qu'on voit en train de viser la tête, etc. Il se passe des choses graves.
Il y a aussi 200...
Je veux dire, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre.
Il y a aussi 200 enquêtes de l'IGPN, ou un peu moins de 200, qui ont été diligentées pour faire la lumière sur tous les cas litigieux, suspicieux, sur lesquels, à un moment donné, peut-être que certains policiers ont le sang chaud, mais il faut aussi voir dans quel contexte on les plonge. Et dernier point, il faut s'interroger sur la question du LBD. Parce que face à une menace très violente, qui par moments s'exprime de manière extrêmement paroxystique, si vous n'avez pas ce type d'arme et de moyens d'intervention, il ne vous reste plus quoi que votre arme létale, pour le coup. Et ça, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire qu'il faut trouver les bons équipements pour répondre, et parfois, face à la violence à laquelle on est confronté, pour la contenir, il faut les bons moyens. Et peut-être que c'est, en l'état actuel, le seul moyen.
C'est la question, en tout cas, qui est posée au Sénat, puisque le Sénat va débattre demain, justement, d'une proposition de loi pour interdire l'usage des LBD dans les forces de l'ordre. On a devancé le débat des sénateurs pour le coup. On va marquer une courte pause parce que il y a pas que les policiers qui ont le sang chaud, comme vous dites. Il y a aussi les surveillants de prison après ce qui s'est passé hier à Condé-sur-Sarthe. À tout de suite sur RTL.
On refait le monde dans RTL Soir.
Vincent Parisot.
Avec ce soir Alexandre Malafaï, Christian Menanteau, Serge Papin et Aude Rossigneur. On refait le monde et on évoque le mouvement de protestation des surveillants de prison, mouvement qui s'est exprimé ce matin dans de nombreux établissements pénitentiaires. 18 prisons étaient bloquées ce matin. Bon, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est surtout celle de Condé-sur-Sarthe qui est bloquée. Après, bien sûr, ce qui s'est passé hier, qu'en dit-on sur les réseaux sociaux?
C'est pas simple. Certains voient les surveillants comme des victimes, d'autres comme les responsables de ce qu'ils appellent une bavure. Thomas résume ainsi l'ambiguïté. C'est vrai que les premiers à rentrer des choses dans les prisons sont les matons. Après, payez-les correctement et ce sera réglé, dit-il. Alain aussi trouve étonnant que le premier réflexe du personnel pénitentiaire après un dysfonctionnement soit de faire grève. Cette culture de l'arrêt de travail, c'est pas très raisonnable, dit-il. Napo rappelle quand même qu'il travaille dans des conditions très difficiles face à des criminels. Mais Leblanc ne voit toujours pas l'utilité d'une grève. Faut juste une nouvelle règle, dit-il. Pas de fouilles, pas de visite. mais ce doit être trop simple. Peut-être que si on mettait moins de monde en prison, genre les vendeurs de shit, le personnel il serait moins en sous-effectif, ça gasse Asie. En tout cas, s'ils attendent des réponses concrètes du ministère, j'espère qu'ils ont pris des vivres et des sacs de couchage, Rican Balta. Pour Laurence, le pire dans cette histoire, c'est que les gardiens peuvent même pas démissionner, sinon ils toucheront pas le chômage. En fait, c'est eux qui sont en prison, et ils sont très nombreux à penser que le gouvernement restera sourd à ce mouvement, comme l'HP Rhin pour conclure. S'ils veulent avoir plus d'impact, c'est pas des grèves que doivent organiser les surveillants, c'est des journées portes ouvertes.
Voilà ce qu'on dit avec parfois un certain sens de l'humour sur les réseaux sociaux. Merci Benoît Galeret. Je voudrais savoir ce que vous en dites et ce qu'a dit aussi la ministre de la Justice Nicole Belloubet, qui a reconnu ce matin qu'il y a encore des failles dans la gestion des détenus radicalisés et qui a trouve impensable qu'on puisse entrer dans une prison avec des objets qui ne peuvent pas être détectés par les portiques. Elle découvre finalement... j'allais dire l'Amérique, j'exagère un peu et ça serait un peu moqueur, mais c'est étonnant quand même que la ministre de la Justice... fasse ce constat-là aujourd'hui, non ?
Oui, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que c'est quand même quelqu'un de très averti, c'est quelqu'un qui sait de quoi théoriquement elle parle. Mais dans le cas qui nous occupe, l'administration pénitentiaire, hein, qui est sous le magistère du ministère de la Justice, elle a un problème fondamental qui n'est pas le problème d'aujourd'hui. C'est un problème de fond de la société française. On n'a jamais donné d'argent, en tout cas suffisamment de moyens budgétaires, au ministère de la Justice et donc, par conséquent, à l'administration pénitentiaire. C'est un département d'une pauvreté au niveau européen.
Oui, mais
qui
la prison de Condé-sur-Sarthe, c'est une des plus modernes.
Mais ce n'est pas parce que c'est la plus moderne, c'est qu'elle est régie quand même à la lueur des fonctionnements de la pauvreté qu'elle subit depuis des années. C'est-à-dire on a des règlements qui sont un peu obsolètes, des méthodes de travail qui sont obsolètes, probablement la formation aussi des surveillants qui n'est pas adaptée à la nouveauté des cas. Auxquels les surveillants sont confrontés. On a quand même un gars là qui est radicalisé, qui est dans une cellule dite de contingentement familial. Enfin, on se demande comment les radicalisés sont dans des cellules.
Unité de vie familiale, voilà, une chambre de 50 mètres carrés, assez confortable au demeurant pour venir du tout.
Ouais, donc, et tout ça. Et tout, voilà,
ça veut dire que c'est pas Carlos Ghosn au Japon, c'est ça?
Ah non, clairement non.
Lui, c'est 8 mètres carrés.
Serge Papin.
Ce que disait, j'écoutais une porte-parole des gardien de prison qui s'exprimait devant la ministre et qui disait il y a aussi une loi respect des droits de l'homme qui fait qu'on n'a pas le droit de fouiller. Et que si la personne qui est de la famille rentre, et elle peut refuser la fouille, et qu'à ce moment-là, alors en effet, le gardien de prison a le droit de refuser son accès. Ouais. Mais c'est une loi qui dépasse les lois françaises. Par contre, il y a un truc que je...
Mais là, pardonnez-moi, précisément, elle est passée parce que ça n'a pas sonné. Vous n'avez le droit de fouiller ou d'imposer la fouille que si le portique se met à sonner. Et là, en l'occurrence, la femme qui était voilée est passée. Elle avait un couteau dans un faux ventre de femme enceinte, enfin un complément de ventre, si je puis dire. Et il l'avait dissimulé là-dedans et ça n'a pas sonné.
Oui, alors, non, mais c'est un couteau en céramique de surcroît qui n'alerte pas.
Ce qui est surprenant, c'est quand même ce dispositif législatif, parce que quand on voit, par exemple, ce qui s'est passé après les attentats, on a pris des lois d'exception. En France, qui d'ailleurs sont toujours plus ou moins en vigueur.
Comme toujours, la loi d'exception, vocation à durer.
Comment se fait-il que, parce que c'est les conséquences de tout ça, ce qui se passe en prison, que ces lois d'exception qui existent dans la vie normale soient pas aussi potentiellement, et qu'il n'y ait pas des lois d'exception de ce point de vue-là? Parce que c'est vrai que... voilà.
Ce ne sont pas des détenus comme les autres.
Non, mais en fait, il faut bien partir du principe qu'on n'a pas fini de s'adapter à la menace. Oui, on efface, pardon, je vais dire un gros mot, mais en fait, on est un peu en guerre. Mmh. Alors, c'est une guerre qui se manifeste plutôt sous forme de guérilla, mais ceux qui pratiquent le djihad, c'est la guerre sainte. Mmh. Donc, c'est une guerre, et donc on nous attaque de manière guerrière et par tous les moyens possibles et imaginables.
Je tiens juste à préciser que dans cette prison très moderne de Condé-sur-Sarthe, il y a une unité pour les détenus islamistes, et qu'il n'y était pas.
Non, il était dans ce fameux centre de vie familiale ou de...
Non, enfin, il n'y allait pas tout le temps.
On
a le droit d'y aller, parce que certains disent que c'est pour aussi acheter la paix sociale. Et donc, il y a des moments de vie familiale où on peut aller voir sa femme,
avoir des rapports sexuels,
faire un enfant.
Ce qui peut se comprendre pour quelqu'un qui, normalement, ne devait pas sortir avant 2038.
Il faut se poser aussi la question de la fermeté qu'on exige dans les systèmes carcéraux français. Et la question d'après, c'est si on ne met pas les dispositifs qui vont bien moyens et la fermeté qui va avec, pardon de le dire ce soir, mais on paiera encore le prix du sang au niveau des gardiens de prison, parce que c'est comme ça.
Non, mais là, manifestement, il est absolument indéniable qu'il y a eu un trou dans la raquette, comme on dit poliment. Et quand on voit qu'on est fouillé pour rentrer parfois dans des supermarchés ou dans des stages, etc., il est difficile à expliquer aux gens que quand on va
c'est
avoir...
La loi.
Un...
C'est la loi.
Oui, j'entends. J'entends.
Sans Fourstade de France où vous êtes palpé de A à Z.
C'est pour ça que je trouve que c'est difficile à accepter. Maintenant, il y a un autre problème qui est celui des prisons, dont l'État est absolument indigent, indigne. La Cour européenne des droits de l'homme a de très nombreuses fois froncé plus que les sourcils vis-à-vis de la France pour l'état de ces prisons. On manque d'effectifs, c'est-à-dire que sur les 600 postes qui étaient ouverts pour les surveillants de prison l'année dernière, il n'y en a que 450 qui ont été pourvus. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout attrayant.
C'est pas très attractif.
Les gens sont mal payés, ils sont menacés, ils sont dans des endroits qui sont des taudis. C'est-à-dire, quand on est privé de liberté, déjà, moi j'estime qu'on ne doit pas être par ailleurs privé d'un minimum de confort et d'humanité. On est privé de liberté, on ne doit pas être puni. Le principe de la prison, c'est d'extraire de la société des gens qui peuvent nuire à la société. C'est pas de faire en sorte que leur vie soit un enfer pendant tout le temps où ils sont emprisonnés. Le problème, c'est que d'abord, ça, c'est pas tellement rentré dans les mœurs, et ensuite que ces conditions de vie des détenus, de fait, elles ressurgissent aussi sur les gardiens de prison qui, de fait, vivent aussi dans cette crasse. Vivent aussi dans cette menace, dans ces ambiances absolument ignobles où les gens sont obligés de s'entasser dans des cellules dégradantes et dégradées. Évidemment, personne n'a envie d'être gardien de prison.
On n'arrive pas à recruter, disent les syndicats. C'est quand même un vrai problème.
Il faut rendre un hommage à ces hommes et ces femmes qui, au quotidien, font un métier extrêmement difficile et dont on a, pour le coup, fondamentalement besoin. Parce que s'il n'y a pas les personnels qui vont bien pour s'occuper des prisons françaises, même s'il y a des défauts, il y a parfois des dérives, elles ne sont pas forcément très nombreuses. Et la plupart de ces personnels font un travail remarquable.
Et il y a de plus en plus de monde, malheureusement, dans les prisons.
Ils sont surpeuplés en France. Le taux d'occupation dépasse largement 100%.
On avait une conversation tout à l'heure, un instant, on parlait de l'état de droit de la France et de la fermeté. Regardez quand même la réalité. Ce type-là, le type qui a été mis en taule pour 30 ans de prison, quand même, il a séquestré un vieux monsieur qui était un déporté. Il l'a étouffé pour tout ça, pour le voler. Il prend 30 ans de prison, on le met dans une prison et il a le droit d'avoir une unité de vie personnelle avec une chambre pour voir sa femme, etc. C'est-à-dire, on peut critiquer la France et dire, ouais, on a peut-être des pratiques policières un peu dures. N'empêche que, pardon, on est quand même très gentil avec les gens à un moment ou à un autre, alors que quand même, des gens comme ça, on pourrait les mettre dans une cellule et les oublier parce que, pardon,
ce qu'il a fait. Très humain, en fait. Vous regardez, en Suède, ils font ça. Simplement, ils se donnent les moyens de le faire.
D'accord. Non, mais là, les cellules sont parfaites. Hein. Condé-sur-Sarthe, c'est parfait. Hein.
Très bien.
Il
n'y
a rien à dire.
Effectivement, c'est bien. Mais ça devrait être.
Ce type-là mériterait un cachot pour l'éternité, vous voyez.
Pas moi, parce que ça s'appelle l'humanité.
Vous voulez le racheter, celui-là?
Non, je ne veux pas le racheter. Je ne veux juste pas le faire souffrir. Il est privé de liberté, c'est suffisant.
Vous avez vu ce qu'il a fait?
Non, je ne fais pas souffrir les gens. Non.
Allez, courte pause. Faites-vous votre idée, si vous le voulez, pendant la pub. Et dans un instant, on va ouvrir un autre dossier. Bon, je pense que vous en parlerez avec un peu plus de sérénité. C'est la taxe sur les GAFA.
RTL soir jusqu'à 20h.
On refait le monde. Vincent Parisot sur RTL.
On refait le monde ce soir avec la journaliste Aude Rossigneux, avec l'ancien patron de Système U, Serge Papon. Avec le président du groupe de réflexion Sinopia, Alexandre Malafaï. Écoutez, ça peut arriver, Christian Menanteau.
Mais ça m'arrive tous les matins.
Bon, j'ai l'impression, oui, parce que je rappelle que vous êtes chroniqueur économique ici même, à RTL. Tiens, ça tombe bien, vous avez voulu faire le malin. Vous allez commencer par nous dire ce que vous pensez de cette taxe sur les GAFA qui a été adoptée ce matin en Conseil des ministres. La France en première ligne dans ce
dossier. Bien sûr, on a une heure ou deux?
Non, on a cinq minutes.
Non, écoutez, j'ai essayé de la faire courte. Cette taxe GAFA, évidemment, elle n'a en réalité qu'une seule vertu, c'est qu'elle fait deux choses. Elle donne plutôt un vrai signal, on en a parlé tout à l'heure, à ces fameux gilets jaunes qui ont fait une de leurs références sur les inégalités fiscales à travers le pays, le monde et l'univers. Et la deuxième chose, c'est qu'elle amorce le mouvement. C'est-à-dire que c'est un modèle de taxe qui a été inventé par Bercy, qui est probablement pas plus le plus pertinent, mais il a vraiment cette vertu, c'est qu'il existe, tout le monde en parle, les Anglais vont en faire un, une, les Espagnols aussi, les Allemands peut-être, j'en doute. Nous, on l'a fait. Bruno Le Maire en espère 400 millions. C'est moins que prévu, mais enfin, c'est toujours là.
C'est et on va c'est voir. Pas beaucoup, 400 millions. On est
non,
d'accord.
Non, mais c'est le geste qui compte. Globalement, pour être très clair sur ce dossier, je crois
c'est
que.
C'est un symbole.
Ce gouvernement met les pieds dans le plat en attendant que l'OCDE, c'est-à-dire la réunion de tous les grands pays industrialisés, mette en plan une taxe pour l'ensemble de ces pays.
On va voir si les internautes sont d'accord avec vous.
C'est vrai qu'on est assez perplexe encore pour l'instant, hein, en fumage, aumône, GAFA, ou premier pas encourageant. Les spécialistes comme Verzac ont fait des simulations à partir des chiffres d'affaires 2017 de ces géants. Résultat, rien en plus pour Facebook France, aucun impact non plus sur Google. En élargissant, ils trouvent 800 000 euros à glaner peut-être, ce qui fait pas beaucoup pour tous ramdam, dit-il. J'aimerais aussi comprendre comment Bercy va établir l'assiette du chiffre d'affaires publicitaire de Facebook à destination des Français. Pour Netflix, c'est encore plus simple, il déclare 0 euro en France, donc 0 euro de taxes, Raj Sacha. Manon Aubry, tête de liste insoumise aux européennes, parle de pansement sur une jambe de bois. Les solutions sont connues, vraie liste de paradis fiscaux, remise à plat de notre système fiscal, qu'attendons-nous? Il y a tout de même un député en marche, tiens, Laurent Saint-Martin. Pour saluer plus de justice pour le contribuable, des entreprises innovantes mieux protégées, un premier pas vers l'Europe de la fiscalité. Mais oui, soutient Doug, c'est le premier gouvernement à faire quelque chose, mais non, ça va pas. Il fallait mieux rien faire du tout, c'est ça. Non mais là, Edith Cliff, c'est un peu comme si on demandait à Fillon de nous rendre quoi, 12,50 €. La porte-parole d'attaque, Dominique Plion, pour finir, se demande pourquoi inventer ces usines à gaz alors qu'il existe une solution simple, plus équitable, la taxation unitaire, qui consiste à considérer toutes les filiales d'un groupe sans que certaines puissent se planquer à l'étranger.
Assez dubitatif, hein, les internautes, vous aussi, Serge Papin.
Non mais c'est symbolique, mais au-delà de ça, il faudra quand même se poser la question. C'est profondément injuste, ce qui se passe depuis de nombreuses années. Si je prends le cas d'Amazon, que je connais bien,
oui, bien sûr,
qui paie pas de fiscalité ou presque pas de fiscalité, je rappelle que Amazon va frôler les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il faudra d'ailleurs se poser la question. On a détricoté la Standard Oil après la guerre. Quand on voit ces géants, imaginez, parce que là on a affaire aux fondateurs, imaginez que demain on ait affaire à on ne sait qui à la tête de ces entreprises qui sont plus fortes que les États.
Bien sûr, c'est vrai, ça donc, devient le problème d'ailleurs.
Donc elle ne paie pas ce qu'on appelle l'IS, l'impôt sur les sociétés, puisque c'est en moyenne, semble-t-il, de l'ordre de 9%, mais comme Netflix,
ça va de 0. 1 à 9% en voilà. Fonction de leur habilité.
Et alors qu'on est à 25% sur les PME françaises. Hein.
Voilà. 23,4.
Et deuxièmement, elle ne paie pas non plus les taxes. Il existe dans la distribution, dans le commerce, une taxe très importante qui dépasse les 500 millions d'ailleurs, qui est payée par la distribution. C'est une taxe, c'est pas de l'impôt. Mmh. Ça s'appelle la TASCOM, la taxe sur les grandes surfaces, qui par ailleurs, normalement, doit servir à revitaliser les centres-villes. Cette taxe a été augmentée pour tout l'ensemble des commerçants physiques. Et ils ne font pas de formation. Je rappelle quand même que le commerce physique en France, c'est aux alentours d'un million d'emplois. C'est quand même des gens, on forme des bouchers, des boulangers, etc. Je mets le commerce dans son ensemble. Amazon, ils forment des bouchers, des boulangers, non? Et parfois, on voit des élus vont inaugurer en grande pompe des entrepôts. Il faudra se poser la question. Et puis, plus dangereux, regardez Netflix aujourd'hui, qui est en train de siphonner les médias français. 25 milliards de dettes, parce que c'est l'argent. Et après, ils vont faire du dumping. Ils font du dumping, ils vont être en position dominante. Et quand vous voyez l'autorité qui juge des positions dominantes dans le commerce physique, et là, on a dépassé de loin des positions qui sont archi dominantes.
Est-ce que les États ont encore les moyens de se faire entendre vis-à-vis de ces géants qui, vous le disiez, Serge Papin, mais vous n'étiez pas le seul, Alain Duhamel aussi tout à l'heure, sont aujourd'hui plus forts que les États.
Mais on est face à un vrai problème, un vrai constat d'échec des politiques fiscales. C'est-à-dire qu'on est face à des champions de l'optimisation fiscale qui, effectivement, payent aujourd'hui 14 points de moins d'impôts que les PME, ce qui est totalement insensé. Simplement, cette histoire, pour moi, ressemble à une sorte de transaction. C'est-à-dire que, par rapport à la dinguerie des bénéfices de ces énormes boîtes, récupérer 400 millions, aujourd'hui, c'est de la roupie de Sansonnet. C'est rien du tout. Je trouve qu'on achète un peu on va faire quelque chose. Et puis
parce que c'est symbolique.
C'est totalement symbolique. Par rapport au CICE, dont cette année, on va verser 18,8 milliards Là, on parle de 400 millions. Donc, il faut quand même aussi regarder où on est un peu en termes d'hypocrisie dans ces mesures. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Je dis que ça, c'est uniquement symbolique.
Alexandre Malafaye.
Dans le symbole.
Alors, ce n'est pas que symbolique, parce que c'est un petit pas dans une direction et qui est en train d'être accompli par plein de gens, de manière un peu, ou plein de pays, qui se posent toutes la même question. Alors, il y a un problème d'harmonisation, on ne va pas ensemble, mais c'est concret et c'est tout de suite. Sinon, on fait quoi ? Rien, on attend que tout le monde fasse, on attend que l'Europe fasse. C'est vrai qu'on peut regretter profondément que l'Europe, l'Union européenne n'ait pas fait. Et c'est pas un bon message.
Oui, mais parce qu'il faut l'unanimité en Europe et qu'il manquait trois États pour le signer.
Mais c'est profondément injuste.
Dont les Allemands qui ont peur pour les voitures.
C'est profondément injuste parce que vous avez des pays européens qui reçoivent des fonds de l'Union européenne, je pense à l'Irlande notamment, et qui pratiquent évidemment le dumping fiscal. Donc c'est profondément injuste et ça envoie de mauvais messages aux citoyens européens. Mais après, il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que là encore, on a en ce moment une crise, les gilets jaunes, tout le monde râle, et à juste titre, sur plein de sujets qui sont tout à fait justifiés, sur le fait qu'on est en train de petit à petit de déstructurer nos pays, nos campagnes, etc. Eh bien, il faut que chacun se prenne en main. Dire, on n'est pas obligé d'aller commander sur Amazon. Voilà, on peut vraiment faire des choix avec des achats citoyens, des actes citoyens.
Mais
on peut aller chez son libraire, on n'est pas obligé de se faire livrer, c'est mieux pour l'environnement. On peut aller de nouveau retrouver le chemin des magasins. Alors, évidemment, c'est long, mais ça, c'est un engagement citoyen de chacun.
Si on se prend en main,
on peut à un moment donné faire la peau au GAFA, parce que je pense qu'il faudra un jour faire la peau au GAFA, en tout cas dans cette forme-là agressive, hyper compétitive, ultra financière.
Merci, c'est dit, et c'est vous qui avez eu le mot de la fin. Merci. Alexandre Malafaye, merci à Christian Menanteau, à Serge Papin, à Aude Rossigneux.
Merci.
Vous revenez quand vous voulez. Évidemment, vous le savez, il y a foot ce soir. D'ailleurs, Serge, il faut partir maintenant, hein, parce que je sais que vous allez au stade. À 20h45, vous retrouverez Sylvain Charlet et Vicente Lizarazu, évidemment, pour cette rencontre. Mais avant cela, après le flash de 20h, ce sera Jacques Pradel. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Vincent.
Et au programme.
Eh bien, ce soir, nous faisons le point sur la disparition, il y a 6 mois, presque jour pour jour, de Sophie Le Tan. Cette jeune étudiante d'origine vietnamienne devait visiter le 7 septembre dernier un appartement à louer qu'elle avait repéré dans un journal de petites annonces. Depuis, personne ne l'a jamais revue. Le suspect numéro 1 des enquêteurs s'appelle Jean-Marc Reiser, un homme au profil inquiétant, chez qui on a trouvé des traces de sang de la jeune fille, mais toujours pas de corps.
Merci Jacques. Donc le programme de l'heure du crime en version légèrement plus courte ce soir en raison du foot. On marque une pause et les infos.